Des ondes vocast, l'actu débat.
Julien Vigier, bonjour.
Salut Olivier, salut à toutes et à tous.
Alors, tu diriges la société VO2X et comme chaque mois, on va faire un petit tour de l'actu radio du mois dernier. Alors tout d'abord, le scoop, Lagardère qui annonce le retour d'Europe 2 au 1er janvier 2023.
Ouais, alors franchement, personne s'attendait à cette nouvelle, mais en même temps, comme dirait notre très cher président, avec Lagardère, on peut s'attendre à tout.
Moi, pour être honnête, je le voyais un peu venir. On sait que Bolloré n'aime pas gaspiller l'argent, la licence de marque de Virgin coûtait 3% du chiffre d'affaires de la radio, qu'elle gagne de l'argent ou qu'elle en perde, comme elle en perdait beaucoup et que ses audiences étaient au plus bas, quelque part, c'est que de toute façon, cette marque internationale n'apportait rien au produit. Si le produit est bon, il aurait fait de l'audience, quelle que soit la marque. Voilà, ça c'est ma théorie.
Ouais, c'est pas faux Olivier, d'ailleurs, bon, s'il change la marque, mais qu'il ne change rien au programme, ça risque de ne pas changer grand-chose, justement. À part en effet, économiser ces fameux 3% de chiffre d'affaires, c'est la licence de marque de Virgin, donc ça c'est sûr que c'est intéressant, ça compte. On en a déjà parlé le mois dernier, le nouveau morning arrive en septembre. Voilà, on imagine qu'ils ne le changeront pas en janvier lors du changement de marque, donc ce sera le nouveau morning sur la nouvelle marque.
Peut-être par contre que la programmation musicale sera revue pour coller davantage à l'héritage d'Europe 2, ce qui voudrait dire peut-être plus de gold. Mais cela nécessiterait peut-être d'ajuster leur convention avec l'ARCOM, et les concurrents montreront peut-être les dents, comme lors du passage inverse d'Europe 2 à Virgin. Bon, à voir. Julien, tu penses que c'est une bonne chose, ce retour en arrière en termes de branding ?
Ouais, c'est pas facile, parce que d'un côté, t'as Europe 2 qui est une marque très forte, et revenir à quelque chose de connu, à mon sens, c'est quand même mieux que de se risquer à une marque totalement nouvelle. On se souvient par exemple de l'exemple Ado qui est devenu Swig, et c'est pas forcément un succès au niveau audience. Même si je tiens à dire que Swig, c'est plutôt agréable à écouter en ce moment, bravo à eux, voilà, parenthèse refermée. De l'autre côté, à mon avis, les programmes vont devoir être à la hauteur, justement, du retour à cet héritage. Ça arrive dans le même temps que Lagardère, en plus, ferme ses locales. Europe 2, c'était l'emblème des programmes locaux par excellence. Donc bon, c'est vrai que de l'eau a coulé sous les ponts, le paysage radio n'est plus franchement le même, mais tu vois, d'un côté, t'as quand même Énergie qui reste une marque qui n'a pas changé, Énergie qui a rien changé sur le local. Alors si Europe 2 redevient Europe 2, sans local, c'est compliqué.
Bien, à voir dans les prochains mois si ils changent seulement l'étiquette ou s'ils font un travail de fond sur l'identité de la marque et de ses programmes. Et d'ailleurs, on s'écoute un petit extrait de ce qu'était Europe 2 il y a une vingtaine d'années. Dans l'actualité du mois dernier et juste après les résultats désastreux des législatives pour le président, Sybille Veil se prononce dans le Figaro contre la fusion de Radio France avec France Télévisions.
Oui, le timing est intéressant. On a souvent dit qu'Emmanuel Macron avait encouragé la candidature de Sybille Veil pour remplacer à l'époque Mathieu Gallet. Et c'est cette dernière finalement qui s'oppose à un projet de sa majorité juste après une défaite électorale. Ça pique un peu. Bon, dans le fond, elle n'a pas totalement tort en fait. Malgré ce qu'on pense. Elle explique très bien hein, dans cette interview les enjeux des univers de l'audio et de l'image sont assez distincts quand même, faut le dire. Aussi sur la manière de produire les contenus que la compétition avec les géants du numérique. Et finalement, les synergies sont minimes, c'est ce qu'elle dit. D'ailleurs, cela engendrerait des coûts énormes pour aligner les régimes salariaux des différents groupes. Enfin, des deux groupes, du coup, télé et radio, faudrait forcément prendre le meilleur des deux à chaque fois, sous peine de passer en grève illimitée.
Et au final, Sybille Veil met un peu le renouvellement de son mandat dans la balance pour 2023. En gros, elle préfère à faire autre chose si l'année prochaine, la fusion est décidée. Ce qui est intéressant, ce sera de voir la réaction du pouvoir, puisque le président Macron doit désormais gérer une majorité plurielle, donc la notion de compromis prendra de l'importance sur chaque décision. Ce sera la même chose pour la suppression de la redevance, dont les dirigeants de l'audiovisuel ne sont pas franchement pour, et pourtant le gouvernement ira sans doute dans sa direction pour le volet pouvoir d'achat des Français.
Oui, ça c'est très possible Olivier. Alors dans l'actualité, des rumeurs de rachat de radio, on adore ça. C'est un peu notre press people à nous. Voilà, dans le milieu des radios locales et régionales, on a entendu pas mal de rumeurs bruissées, notamment au Paris Radio Show.
Oui, Julien, les rachats de radio s'étaient calmés depuis 2 ans à cause du Covid, mais aussi du déploiement du DAB+, qui forcément a amené une nouvelle offre et a réduit l'intérêt pour les radios en FM, qui étaient avant de facto les dernières ressources à saisir dans un marché saturé. Et le premier à avoir ouvert son jeu pendant le salon, c'est Nicolas Pavageau de Rossel Radio, qui a annoncé avoir repris Direct FM, mais aussi une radio de la région de Bordeaux. On a tout de suite pensé à Gold FM.
Et peut-être bien que selon mes informations, Gold FM a été racheté par une autre radio régionale, c'est ce qu'on dit, mais pas par Russell. Donc comme c'est pas officiel, on ne citera pas le groupe qui est en train de racheter ça, mais bon, apparemment c'est en cours, et puis RBA serait aussi en cours de rachat.
Intéressant. Donc Media Meeting vendrait certaines radios de son pôle FM, voire toutes, qui sait. La rumeur courait depuis un certain temps, donc à suivre.
L'autre nouvelle qui est passée de manière relativement inaperçue et toujours dans le sud-ouest, c'est le passage de Pyrénées FM dans la catégorie B. C'était une catégorie A, c'est une associative et elle passe en B.
Effectivement, Julien, on en a parlé en préparant ce podcast et ça s'est fait assez naturellement. Pyrénées FM a attendu un appel à candidature générale quand ses fréquences sont arrivées à expiration et elle a repostulé en catégorie B. C'est, disons, la façon propre de demander au CSA de passer dans une catégorie commerciale, car c'est non agressif. La radio a eu 15 ans d'autorisation pour faire ses preuves. Et à moins que le bureau de l'association ait changé juste avant l'appel, l'ARCOM a tendance à réattribuer la plupart des fréquences dans la catégorie B si la radio a montré qu'elle avait un business model pour ne vivre désormais que de la pub.
Ouais, ça a marché pour pas mal d'entre elles hein, dans le passé. Il y a eu le cas de Hot Radio à Grenoble et précédemment Beldon FM.
Ce qui est plus risqué, c'est lorsque des A rendent leur fréquence hors appel général puisqu'elles n'ont pas eu la patience d'attendre ces appels. Et cela peut être le signe d'une reprise en main d'une association par une radio commerciale, par un groupe commercial ou simplement par des intérêts privés. Alors que la radio a vécu jusque-là du FSER, le fonds de soutien à l'expression radiophonique.
Alors l'exemple le plus récent, ça a été RTU à Lyon, qui a rendu sa fréquence, et le CSA à l'époque l'a réautorisé en C, mais pour diffuser Nova. Sacré coup, à l'époque ça avait fait pas mal parler, pas mal de polémiques hein, autour de ce changement de catégorie, c'était un précédent. Surtout pour un passage en catégorie C, même Nova Sauvagine à Bordeaux avait attendu la fin sa fin d'autorisation en fait pour demander à être réautorisé en C. Alors on connaît les risques, une chasse aux radios de catégorie A pour les reprendre en sous-main avant de demander de les faire basculer en B ou en C, comme dans les années 90 lorsque Rire et Chanson chassait notamment les B et les basculait en C hein, du coup. Mais cette fois-ci, c'est la digue des radios de catégorie A qui est en train de céder. Bon, c'est sûr que ça fait parler, ça fait causer, comme on dit. Et le CERTI, je peux te le dire, est aux aguets.
Oui, d'autant que certaines B qui essayent de se rapprocher de A se sont fait éconduire dans le passé, comme par exemple Pic FM à Tarbes qui a perdu sa fréquence au lieu de basculer en 100% souvenir.
Oui, en ce moment, on a un autre cas comme ça, c'est Oxygène. En Seine-et-Marne, c'est ça. Raconte-nous un petit peu.
Oui, et à la manière abrupte, remise des fréquences en A à l'ARCOM dans l'espoir de se faire réattribuer en B. La radio ne s'est pas faite racheter par un groupe extérieur, mais ses concurrents lui reprochaient depuis longtemps de fonctionner comme une B tout en touchant le FSER. On verra si l'ARCOM décide de satisfaire cette demande de changement de catégorie. Mais cela voudrait dire que certaines zones se retrouveraient sans aucune radio de catégorie A. D'autre part, des projets concurrents sur les mêmes zones pourraient mieux satisfaire les critères de sélection décrits par la loi, puisque c'est une remise en jeu totale des fréquences. Enfin, si la plupart des fréquences étaient réattribuées au même opérateur, mais en commercial, on pourrait encore une fois imaginer une forme de jurisprudence et le début d'une chasse aux fréquences A en France, ce qui créerait de gros soucis pour l'ARCOM à l'avenir.
Ouais, c'est un peu inquiétant peut-être. On a le paysage radio le plus diversifié du monde et pour une raison, c'est principalement grâce aux fameuses radios de catégorie A. Donc voilà, si elles tombent toutes et deviennent des catégories B, elles vont disparaître. Donc affaire vraiment à suivre, Olivier. Sachant qu'on a aussi une autre actualité dont il faut qu'on parle maintenant, c'est la création de cette association. ensemble pour le DAB+. Ça donne envie. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, ça a été annoncé aussi au Paris Radio Show et en gros, c'est une association avec tous les acteurs de la chaîne du DAB+ en France qui se fédèrent pour la promotion de cette nouvelle bande de fréquence. C'est le bon moment de le faire alors qu'on a atteint les 50% de diffusion sur le territoire et qu'il faut centraliser toutes les initiatives autour du DAB, notamment sa communication. Il y a ce genre de bureau dans tous les pays où le DAB est implanté. C'est un peu sur le même principe que Radio Player, avec tous les acteurs qui s'unissent ensemble. Et apparemment, le bureau aura des fonds de l'État pour le financer.
Allez, le mercato commence. Ouais, c'est le moment. Ça va donner quoi ?
À mon avis, pas grand-chose. On a appris que Marc Fauvel avait failli être débauché de France Info, mais qu'il finalement a décidé de rester en place. On a entendu que Mathieu Noël passe d'Europe 1 à France Inter, mais sinon, on devrait rester assez stable au niveau des grilles des généralistes.
Ouais, enfin quand même, Mathieu Noël qui passe sur France Inter, à titre personnel par exemple, moi ça m'excite beaucoup. Il était au placard un peu sur Europe 1, je le préfère sur Inter. Enfin Olivier, tu as noté des informations sur l'arrêt possible des grandes ondes à RTL.
Oui, malheureusement je n'ai pas eu le temps d'interroger RTL à ce sujet, on fera peut-être ça pour la rentrée, mais visiblement RTL a réduit la puissance de son émetteur grandes ondes, peut-être pour préparer sa future extinction. Cela serait assez logique dans le contexte du déploiement du DAB+ métropolitain, même si cela fera dans l'immédiat des trous dans certaines zones rurales. À suivre. Et toujours dans l'actu, un fait marquant côté programmation musicale, la diffusion d'un titre de Kate Bush en pleine journée. Et on accueille Rémi Bertolon du Voice Track Rémi et Jam pour en parler. Salut Rémi.
Salut Olivier, bonjour tout le monde.
C'est pas si souvent qu'un titre des années 80 entre en playlist sur Énergie.
Eh oui, et je pense même que c'est un fait marquant à côté prog pour cette fin de saison. Comme on dit, du côté de la Panthère, tous les hits démarrent sur Énergie, même s'ils datent de l'été 1985. Alors si vous êtes passé complètement à côté, c'est le tube Running Up That Hill qui a été utilisé par Netflix hein, pour sa nouvelle saison de la série Stranger Things. Et alors moi qui suis pas forcément fan de cette série, j'ai regardé l'épisode concerné. Et effectivement, le tube de Kate Bush a été utilisé. Alors c'est plus qu'une BO, hein, c'est vraiment un titre qui est inclus dans le scénario. La chanson, c'est la chanson préférée du personnage qui la sauve d'ailleurs. Bah ouais. Et voilà, donc c'est pas uniquement le titre qui est utilisé en fin d'épisode en générique, c'est bien plus que ça et je pense que ça a aussi marqué les plus jeunes qui ont regardé cette série sur Netflix.
C'est donc une vraie curiosité ce titre en rotation sur Énergie.
Et c'est plutôt bien senti, hein, Énergie qui a pas du tout tardé à jouer le morceau dans sa version originale hein, pour commencer le vrai titre de 1985 et puis ensuite une version un peu plus travaillée et ils ont pris de court même pas mal de radios. Le titre s'est ensuite positionné dans les classements iTunes, Spotify, ça a bien marché aussi sur le réseau social TikTok. Et puis quand on fait un comparatif, c'est rigolo de voir que le titre de Kate Bush en 1985 s'est classé 24e et là en 2022, il est troisième, même si le volume de vente est plus réduit, c'est quand même intéressant à voir.
De l'audace dans la programmation rue Boileau. Voilà une bonne chose. Une deuxième chose à surveiller également sur Netflix.
Oui, je pense que le monde de la radio doit pas passer à côté de ce qui s'est passé sur Netflix. Alors si vous n'êtes pas fan de hip-hop ou vous ne jouez pas de rap sur vos radios, il faut quand même regarder Nouvelle École, ce nouveau programme sur Netflix, c'est un radio crochet à la Nouvelle Star version hip-hop, c'est très bien produit et il se passe complètement des radios hein, pour ce genre de programme de TV réalité, c'est bien dommage. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le S en personne, hein, l'un des artistes dans le jury, demande aux finalistes, aux candidats de produire un son streamable. Donc terminer les tubes, les hits, les gros morceaux à passer en radio, là on fait rêver avec du streamable et on voit bien l'adéquation très simple, Netflix et ensuite c'est Spotify ou Amazon Music ou Deezer, mais entre les deux, il n'y a pas de radio.
Merci Rémi.
Bisous Olivier, merci à tous.
Des ondes vocastes.